Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. C'est un travail long et discret. Depuis plusieurs mois, le mécanisme international impartial et indépendant collecte des données de différentes sources et notamment des organisations non gouvernementales et si possible des preuves des crimes et atrocités commises en Syrie depuis le début de la guerre il y a 8 ans. Un rapport est présenté aux Nations Unies aujourd'hui à New York. Le but, c'est de permettre que les auteurs de ces crimes puissent être jugés un jour, si cela devient possible, car pour l'instant, c'est très difficile. Les tentatives de transmettre ces dossiers à la justice internationale restent pratiquement vaines. Les crimes et atrocités en Syrie seront-ils punis? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Patrick Baudouin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocat pénaliste et président d'honneur de la Fédération internationale des droits de l'homme. Et Francis Perrin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vice-président d'Amnesty International France. Ces crimes dont nous parlons, ce sont des assassinats, des tortures, des viols, des génocides même, Francis Perrin?
En tout cas, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, d'autres graves violations du droit humanitaire et des droits de l'homme. Donc un dossier extrêmement lourd. Depuis, bien sûr, le début de la guerre en Syrie en 2011, vous l'avez rappelé. Et évidemment, on peut remonter plus loin parce que la responsabilité du régime Assad, Bachar al-Assad, l'actuel président, on peut remonter à son père,
père inclus,
Hafez al-Assad, oui. Qui n'était pas non plus un grand défenseur des droits humains. Donc, on peut remonter sur des décennies, mais en tout cas, pour la situation depuis 2011, crime de guerre, crime contre l'humanité, autre violation grave du droit humanitaire des droits de l'homme, le dossier est très lourd. Différentes parties sont concernées. Le gouvernement syrien au premier chef, des groupes armés, l'État islamique, la coalition internationale dirigée par les États-Unis et luttant contre l'État islamique, contre Daesh en Syrie et en Irak. Mais il ne fait guère de doute, pour nous comme pour beaucoup d'autres, qu'une grande partie de ces crimes, de ces graves violations, sont de la responsabilité directe du régime syrien et parfois de ses alliés, y compris d'un pays très puissant qui s'appelle la Russie.
Patrick Baudouin, est-ce qu'on a des éléments matériels de tout ça, des preuves? Tout cela est documenté?
Oui, tout cela est, en tout cas, commence à être documenté. On rappellera juste que un exemple, hein, c'est un photographe qu'on a dénommé César pour ne pas donner son nom réel.
Le dossier César.
Le dossier César, bon, qui était un photographe syrien mandaté par le régime pour photographier toutes les horreurs qui pouvaient se commettre dans les prisons syriennes et en particulier évidemment le recours à la torture qui se terminait souvent par la mort d'ailleurs des personnes détenues. Et il y a ainsi des milliers de photos qui ont pu être accumulées. Ça, c'est un exemple. Ça a été remis à la justice française. Bon, il faut savoir qu'en France, il y a désormais depuis à peu près 8 ans en fonctionnement un pôle qui s'appelle le pôle crime de guerre, crime contre l'humanité, crime de génocide et qui travaille sur ces éléments. Et puis beaucoup d'autres éléments, il y a, je pourrais les évoquer, des procédures qui sont en cours actuellement à ce pôle et avec matériellement un certain nombre de témoignages et autres qui ont pu être rassemblés. Et on continue de documenter. Il faut rappeler que tous ces régimes ont d'ailleurs, et on l'a vu à la chute du régime libyen du colonel Kadhafi, ont la manie d'accumuler malgré tout des éléments écrits et autres.
Ils auto-documentent leur forfait, c'est ce que vous
êtes... C'est à peu près ça, oui.
Ouais, oui. Vous parliez à l'instant de Francis Perrin de toutes les parties qui sont mises en cause. Vous avez évoqué le régime syrien, naturellement, la résistance à ce régime également, les groupes terroristes et même la coalition internationale. Si je reviens sur ce dossier César, est-ce que des repentis, parce que c'est de ça qu'il s'agit au fond, peuvent être aussi concernés par ces enquêtes?
C'est un dossier tout à fait majeur, comme l'a rappelé Maître Patrick Baudouin, parce que nous avons une multitude de photos, de documents qui se chiffrent en dizaines de milliers et dont la véracité et l'authenticité ont été attestées. Donc là, c'est un matériel quasiment unique depuis de nombreuses années et parfois décennies par rapport à des atrocités commises par un régime. Il y a le travail accompli par différentes organisations non gouvernementales que vous avez évoquées. Vous avez également cité à juste titre le mécanisme international mis en place par l'Assemblée générale des Nations Unies à la fin 2016. Il y a une commission internationale d'enquête sur la Syrie également mise en place par les Nations Unies. Donc on a une conjonction de sources diverses, y compris non gouvernementales, y compris également les médias, et on est face à des dossiers qui sont extrêmement bien documentés et qui confirment ce que l'on sait depuis longtemps, c'est-à-dire le caractère massif, systématique et extraordinairement grave de ces violations, de ces crimes, y compris des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Donc il peut y avoir effectivement, face à cette avalanche de documentation, des personnes qui pourraient être tentées de retourner leur veste de façon plus ou moins spontanée, de façon plus ou moins calculée. Mais cela suppose évidemment que les enquêtes, et les enquêtes cette fois-ci au sens judiciaire du terme, avancent, progressent, et qu'un certain nombre de personnes mises en cause, ou qui pourraient être mises en cause, se disent que peut-être il serait bon de penser à dénoncer quelques-uns de leurs collègues ou supérieurs ou superviseurs. Cela fait partie évidemment du travail de l'enquête, des enquêtes judiciaires.
Patrick Baudouin, la justice internationale n'a pas pu jusqu'à présent se saisir de ces crimes commis en Syrie. Expliquez-nous pourquoi.
Je voudrais d'abord rebondir, si vous permettez, parce que c'est très important sur ce qui vient d'être dit. Déjà, le vrai problème, c'est la lutte contre l'impunité. La lutte contre l'impunité, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on pourra juger? Alors, je voudrais quand même compléter peut-être le propos de M. Perrin tout de suite. Il y a déjà actuellement des informations qui sont en cours. Je vais citer des exemples précis. Effectivement, il y a des officiers d'un rang plus ou moins élevé de l'armée syrienne qui ont fait défection et qui sont venus en Europe. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez, c'est assez récent, 3 arrestations qui ont été opérées, 2 en Allemagne et 1 en France, au mois de février dernier, et il y a un responsable qui était assez haut niveau, qui est un général syrien. Alors ce sont des gens, des espèces de repentis, mais qui ont participé pendant des mois, des années aux crimes du régime, et qui font actuellement l'objet de poursuites. C'est le premier élément. Et évidemment, ce travail va se poursuivre. Il y a en Allemagne, en Suède et en France, des juridictions spécialisées, des pôles spécialisés qui là-dessus continuent leurs investigations. Et on sait qu'en France, il y en a d'autres qui sont susceptibles d'être poursuivis. Deuxième cas de figure que j'évoque rapidement, c'est une procédure en cours, c'est une possibilité. En France, la justice française est compétente dès lors qu'un ressortissant français est auteur de crimes commis à l'étranger ou victime de crimes commis à l'étranger. Or, il se trouve qu'il y a une famille, qui est la famille Dabag, qui avait la double nationalité franco-syrienne. Et il y a Monsieur Dabag, qui était l'oncle, dont le frère a été exécuté, le neveu a été exécuté, et il y a des poursuites qui sont également engagées en France, devant le pôle, la juridiction, donc crimes contre l'humanité, avec 3 mandats d'arrêt internationaux qui ont été délivrés en octobre 2018. Donc on voit qu'il y a ces possibilités. Il faut continuer sur ce registre des actions nationales. Alors pourquoi, et je réponds à votre question, pourquoi la justice internationale est-elle entravée? Tout simplement parce que la justice à laquelle on pense, évidemment, c'est la Cour pénale internationale, mais la Cour pénale internationale n'est compétente pour juger que vis-à-vis des auteurs d'un État parti, ceux qui sont présumés être responsables de ces crimes, mais qui appartiennent à un État parti, ou des crimes qui ont été commis sur le territoire d'un État parti. Or, la Syrie n'a pas ratifié.
Oui, parce que la CPI, c'est 123 pays membres.
C'est 123 pays membres.
Et donc, la Syrie n'en fait pas partie. Est-ce que le fait que la Russie mette son veto à toute action judiciaire dans ce sens, Francis Perrin, est-ce que ça aussi, c'est un problème majeur?
C'est un problème majeur, parce que, comme vient de l'expliquer Maître Patrick Baudouin, la CPI ne peut pas se saisir toute seule du dossier syrien du fait des problèmes juridiques que vous venez d'évoquer. Par contre, le Conseil de sécurité des Nations Unies pourrait demander à la CPI, la Cour pénale internationale, de se saisir de ce dossier. Mais qui dit Conseil de sécurité dit droit de veto de l'un des 5 membres permanents, dont la Russie et la Chine, et sur les questions syriennes, en dépit de ces violations massives et documentées depuis des années, la Russie et souvent la Chine ont opposé leur veto, la Russie étant, je dirais, le pays qui est chef de file, la Chine suivant plus le veto russe, et par conséquent, le Conseil de sécurité est bloqué, les Nations Unies sont bloquées, la CPI ne peut pas être saisie. Alors, évidemment, logiquement, dans un monde idéal, mais nous savons bien que nous ne vivons pas dans un monde idéal, ce serait à la justice syrienne de traiter des dossiers liés à la Syrie. Mais évidemment, compte tenu de ce qu'est l'État syrien, on ne peut pas attendre de la justice syrienne, qui n'est ni impartiale ni indépendante, qu'elle puisse juger des crimes dont le régime est largement responsable. Donc ça, c'est évidemment une voie complètement bloquée. La voie de la Cour pénale internationale est bloquée par le veto russe et chinois. Il reste donc ce que nous évoquons. D'une part, au niveau des Nations Unies, donc cette commission d'enquête internationale, ce mécanisme international que vous avez évoqué, crée d'ailleurs ce mécanisme par l'Assemblée générale pour contourner le blocage russe et chinois, et surtout russe, au Conseil de sécurité. Il reste la voie de la compétence universelle que nous sommes en train d'évoquer, et donc des justices nationales qui ont, dans certains cas, mis la main sur certains responsables présumés de graves violations, dans d'autres, comme le disait Maître Patrick Baudouin, lancé des mandats d'arrêt internationaux. Donc nous avons besoin de tous ces mécanismes à la fois, et de l'action des organisations non gouvernementales et des médias pour continuer à faire progresser la lutte contre l'impunité en Syrie.
Donc vous le disiez, Patrick Baudouin, des pays s'auto-saisissent, c'est ça qu'on appelle la clause de compétence universelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
ça? Oui, la clause de compétence universelle, c'est la possibilité effectivement pour un pays sur le territoire duquel réside ou passe un présumé responsable de ces crimes internationaux les plus graves, c'est la possibilité pour ces pays de poursuivre ce bourreau, hein, pour simplifier, ce bourreau avec la justice, la justice nationale. C'est toujours assez compliqué parce qu'il faut aller après investiguer malgré tout dans le pays où les crimes ont été commis et vis-à-vis de ses ressortissants. Juste un petit complément aussi par rapport à la Cour pénale internationale, où ce qu'a dit Monsieur Perrin était parfaitement juste, c'est-à-dire qu'on est bloqué aussi par l'impossibilité pour le Conseil de sécurité de se mettre d'accord et de permettre des poursuites par la CPI. Ça s'est produit une fois avec la Libye, où la Russie et la Chine, là, n'ont pas exercé le droit de veto et s'en sont repentis d'ailleurs assez vite. Donc c'est une voie fermée. Mais il y a une toute petite possibilité pour la Cour pénale internationale qui tient au fait qu'il y a beaucoup de réfugiés syriens qui ont été victimes des exactions du régime ou d'autres groupes d'ailleurs, hein, milices et autres dans ce pays, qui sont réfugiés en Jordanie. Or, la Jordanie, c'est le seul, à ma connaissance, avec la Tunisie maintenant, seul pays du monde arabe à avoir ratifié le statut de la Cour pénale internationale.
C'est-à-dire être parmi les 123 pays.
Parmi les 123 pays qui se sont soumis à la compétence de la Cour pénale internationale. Or, ces populations qui sont réfugiées sont des populations qui continuent aujourd'hui, quelque part, d'être victimes du fait de ces déplacements forcés, des persécutions qui rentrent dans le cadre du crime contre l'humanité. Donc, il y a des velléités, des tentatives là de voir si la CPI, la Cour pénale internationale, ne pourrait pas être saisie à ce niveau. Mais je pense que le meilleur instrument aujourd'hui, ce sont les juridictions nationales, via notamment ce mécanisme de compétence extraterritoriale, de compétence universelle.
Si vous le permettez, excusez-moi, puisque nous parlions de veto, rappelons que le veto russe s'applique aussi à des enquêtes sur l'utilisation d'armes chimiques en Syrie. Avec de fortes suspicions portant sur le régime, et que les mécanismes en place ont été bloqués à plusieurs reprises par les autorités russes, qui ont donc tenté d'empêcher le mécanisme d'enquête mis au point par les Nations Unies
notamment
et par l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques.
Notamment dans la région de la Ghouta orientale.
Absolument.
Ça signifie, Patrick Baudouin, ce que vous nous dites, qu'on peut juger quand on tient quelqu'un, quand on tient les accusés, ou est-ce qu'on peut même juger ou se saisir de cette clause de compétence universelle par contumace?
On peut le faire par... Ça c'est assez... si vous voulez, pour que la compétence universelle s'applique, il faut un lien de rattachement. Si je prends, par exemple, le cas que j'ai évoqué tout à l'heure, d'Abag, qui n'est pas tout à fait un cas de compétence universelle, il est vrai, puisque là, finalement, on se retrouve avec des ressortissants français. Mais on peut imaginer un procès par contumace, dans la mesure où on a lancé des mandats d'arrêt internationaux, mais après, ce sont des gens qui sont en Syrie, des responsables qui sont en Syrie. S'ils ne viennent pas, la justice française peut malgré tout continuer et procéder par contumace. Dans le cas de compétence universelle, c'est beaucoup plus difficile, parce que la compétence universelle suppose... Alors, il y a des règles qui sont diverses selon les pays, je ne voudrais pas rentrer dans ce détail qui est un certain enchevêtrement, mais la règle, c'est quand même qu'il faut que le présumé bourreau soit sur le territoire. Donc, ce qui veut dire que c'est difficile de le juger par contumace. Mmh. Mais il y a des cas, je vais en évoquer un, qui était le cas d'un officier mauritanien, il y a quelques années, qui a été jugé en France sur le fondement de la compétence universelle. Il était sur le territoire français au début de la procédure. Il a quitté le territoire français, il s'est fait exfiltrer, disons, et le procès a néanmoins eu lieu par contumace. Donc, vous avez ce cas de figure qui n'est pas impossible.
Alors, quels pays se sont saisis de quel dossier? Vous avez parlé, Patrick Baudouin, de l'Allemagne, de la France. Vous pouvez nous en dire plus, Francis Perrin, si vous...
Alors, l'Allemagne et la France sont des pays qui ont émis des mandats d'arrêt internationaux concernant des responsables, certains responsables syriens, notamment dans le milieu des renseignements, des services de renseignement syriens, y compris des renseignements militaires, des responsables présumés de graves violations des droits humains, notamment pour avoir supervisé ou laissé faire ou ordonné des actes de torture avec des conséquences extrêmement graves sur les victimes concernées. Donc il y a là-dessus un certain nombre d'enquêtes en cours et de procédures en cours sur la base des informations que nous évoquions tout à l'heure, au début de cette émission.
Donc, comment la justice dans ces pays choisit les dossiers qui sont jugés? Vous l'avez dit, il faut un rapport plus ou moins direct avec le territoire dans le pays dans lequel ça s'est passé, avec peut-être avoir une arrestation, avoir quelqu'un en détention. Est-ce qu'il y a des choix qui sont faits? Est-ce qu'il y a une question de moyens, de volonté politique, Patrick Baudouin?
Oui. Alors je vais citer l'exemple français, c'est celui que je connais le mieux parce que je suis dans la plupart des procédures qui sont actuellement au pôle crime contre l'humanité et notamment les procédures syriennes. Il est certain qu'aujourd'hui le parquet, le procureur, en particulier Madame Aurélia De Vos, qui est la procureure de ce pôle, axe beaucoup d'efforts sur ces dossiers syriens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des équipes d'enquêteurs, hein, bien sûr, qui rassemblent toute une série d'éléments en lien avec les services français et autres, et qui aujourd'hui essayent de localiser, par exemple, des ex-hauts responsables des services ou de l'armée syrienne pouvant se trouver en France pour permettre ensuite d'enclencher des informations judiciaires. L'autre moyen qui est utilisé, il faut le dire, on va le dire avec modestie, mais c'est une réalité, ce sont les éléments qui sont fournis par des organisations comme Amnesty International, Human Rights Watch, l'AFIDH, c'est-à-dire un travail de terrain que nous faisons, aidé aussi, parfois avec des journalistes, et puis les organisations internationales intergouvernementales, les Nations Unies, mais nous rassemblons beaucoup d'éléments et nous apportons beaucoup. Je travaille pour la FIDH, donc je parle de ce qu'elle fait, et le pôle est très très demandeur des éléments qu'on peut lui communiquer sur des victimes qui pourront venir témoigner, qu'on s'efforce d'ailleurs d'aider à venir témoigner.
Je rebondis sur ce que vous disiez, Patrick Baudouin, la guerre en Syrie en fait a déplacé beaucoup beaucoup de monde. On peut imaginer que certains auteurs de torture par exemple soient actuellement en Europe et même qu'ils croisent certaines de leurs victimes. Vous avez eu vent de choses comme ça, Francis Perrin?
Ce sont des choses qui sont possibles dans ce genre de conflit. Un conflit, vous l'avez rappelé au début de cette émission, qui dure maintenant depuis mars 2011. Et puisque vous parlez de personnes déplacées, il faut rappeler à nos auditeurs des chiffres, des estimations qui sont tout à fait effroyables. Pour la Syrie, on est sur 11 millions de personnes au moins réfugiées ou déplacées, 6 millions, la dernière estimation fin 2018, 6 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays, plus de 5 millions de réfugiés. Donc il peut bien sûr y avoir dans cette population malheureusement très vaste beaucoup de victimes. Il peut y avoir aussi quelques bourreaux.
Merci beaucoup Francis Perrin, merci à vous également Patrick Baudouin d'avoir participé à cette émission qui est déjà terminée. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Déborah Lepage à la coordination, Simon Carteret à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Adrien Toureau. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio rubrique magazine, participer au débat du jour sur les réseaux sociaux. Prochain débat demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.